écoutez VOA Afrique dans quelques instants pour Sporama avec Eric Manila-Kiza. Mais tout d'abord, les dernières nouvelles en Afrique et dans le monde. À la présentation, Rosine Munezero. Le chef de l'État sortant en Tunisie, Kais Saied, a remporté dimanche avec plus de 89% des voix à la présidentielle, marquée par une très faible participation selon des sondages sortis des urnes. D'après les résultats diffusés à la télévision nationale, M. Saied a obtenu 89,2% des suffrages dès le premier tour, écrasant le deuxième candidat, Ayachi Zamel, 47 ans, un industriel libéral qui n'a obtenu que 6,9% des voix. Le troisième, un député de la gauche panarabe, Zouer Mazawi, 59 ans, s'est adjugé 3,9% des suffrages. Le Mozambique élit mercredi son prochain président et son parlement. Le candidat du parti au pouvoir, Frelimo, Daniel Chapo, est largement pressenti pour remplacer Philippe Nyusi à la présidence du pays d'Afrique du Sud-Est. Le président sortant, Philippe Nyusi, ne peut se présenter à un troisième mandat selon les termes de la Constitution. Le Front de Libération au Mozambique, Frelimo, devrait, sauf forte surprise, se maintenir à tous les postes clés du pouvoir en dépit des critiques. Son candidat, Daniel Chapo, affronte trois autres candidats à la fonction suprême. L'ex-président sénégalais Macky Sall renonce à ses fonctions d'envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète en vue des législatives du 17 novembre dans son pays, a indiqué dimanche le site de la télévision nationale sénégalaise, la RTS. M. Sall a été désigné la semaine dernière tête de liste d'une coalition de l'opposition aux législatives de novembre. Le président Bassirou Diomaye, élu en mars, s'est retrouvé avec un parlement dominé par les partisans de l'ancien président. Il a annoncé sa dissolution en septembre, provoquant des législatives anticipées. La vaccination contre le Mpox dans le sud de Kivu, la province la plus touchée par l'épidémie en RDC, a commencé dimanche au lendemain du lancement officiel de la campagne dans le pays. Selon le ministère de la Santé, il ne s'agit pas à ce stade d'une vaccination de masse, mais de cibler les publics à risque des zones les plus affectées, notamment les personnels soignants, professionnels du sexe, vétérinaires et les chasseurs. Un an après, les dirigeants occidentaux ont redit lundi leur horreur au souvenir des attaques commises par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et leur attachement à la paix. D'Amsterdam à Tokyo, en passant par Washington ou Ankara, de nombreuses déclarations et des rassemblements avec la communauté juive, mais aussi des manifestations pro-palestiniennes, ont marqué l'anniversaire de cette journée la plus meurtrière dans l'histoire de l'État hébreu. L'attaque a pris par surprise le pays un jour de fête religieuse juive et a entraîné la mort de 1206 personnes, puis une guerre dévastatrice d'Israël contre la bande de Gaza qui a fait près de 42 000 morts et l'ouverture d'un autre front au Liban mi-septembre visant le Hezbollah pro-iranien. Ici aux États-Unis, l'ouragan Milton s'est rapidement intensifié lundi. Des vents dangereux et des ondes de tempête sont prévues dans la péninsule du Yucatan au Mexique avant que l'énorme tempête ne s'abatte sur la Floride d'ici mercredi. La tempête suit de près l'ouragan meurtrier Helene qui a frappé les mêmes régions et certains habitants de Floride ont reçu l'ordre d'évacuer à nouveau. Le président russe Vladimir Poutine s'entretiendra vendredi avec son homologue iranien et allié Massoud Pezeshkian au cours d'un déplacement au Turkménistan en pleine intensification de la guerre au Proche-Orient, a annoncé lundi un conseiller du Kremlin. Cette rencontre est d'une grande importance à la fois pour discuter des questions bilatérales et bien sûr de l'aggravation dramatique de la situation au Proche-Orient, a déclaré le conseiller présidentiel. C'est Yuri Utchakov, cité par les agences de presse russes.